Mémoire d'outre tombe de François-René de Chateaubriand, troisième partie, livre 28e. Année 1824, 1825, 1826 et 1827. 1. Délivrance du roi d'Espagne. Ma destitution. 2. L'opposition me suit. 3. Dernier billet diplomatique. 4. Neuchâtel en Suisse. 5. Mort de Louis XVIII, sacre de Charles X. 6. Réception des chevaliers des ordres. 7. Je réunis autour de moi mes anciens adversaires. Mon public est changé. 8. Extrait de ma polémique après ma chute. 9. Je refuse la pension de ministre d'État qu'on veut me rendre. Comité grec. Billet de M. Mollet. Lettre de Canaris à son fils. Madame Récamier m'envoie l'extrait d'une autre lettre. Mes œuvres complètes. 10. Séjour à Lausanne. 11. Retour à Paris. Les Jésuites. Lettre de M. de Montlosier et ma réponse. 12. Suite de ma polémique. 13. Lettre du général Sébastiani. 14. Mort du général Foy. La loi de justice et d'amour. Lettre de M. Étienne. Lettre de M. Benjamin Constant. J'atteins au plus haut point de mon importance politique. Article sur la fête du roi. Retrait de la loi sur la police de la presse. Paris illuminé. Billet de M. Michaud. 15. Irritation de M. de Villèle. Charles X veut passer la revue de la garde nationale au Champ de Mars. Je lui écris ma lettre. 16. La revue. Licenciement de la garde nationale. La chambre élective est dissoute. La nouvelle chambre. Refus de concours. Chute du ministère Villèle. Je contribue à former le nouveau ministère et j'accepte l'ambassade de Rome. 17. Examen d'un reproche. 18. Madame de Staël. Son premier voyage en Allemagne. Madame Récamier à Paris. 19. Retour de Madame de Staël. Madame Récamier à Copé. Le prince Auguste de Prusse. 20. Second voyage de Madame de Staël en Allemagne. Lettre de Madame de Staël à Bonaparte. Château de Chaumont. 21. Madame Récamier et Monsieur de Montmorency sont exilés. Madame Récamier à Châlons. Voir dans les suppléments le livre sur Madame Récamier. Entre parenthèses, CM 1, 575. Chapitre 1. Délivrance du roi d'Espagne. Ma destitution. Ici vient se placer dans l'ordre des dates le congrès de Vérone, que j'ai publié en deux volumes, à part. Si on avait par hasard envie de le relire, on peut le trouver partout. Ma guerre d'Espagne, le grand événement politique de ma vie, était une gigantesque entreprise. La légitimité allait, pour la première fois, brûler de la poudre sous le drapeau blanc, tirer son premier coup de canon. Après ces coups de canon de l'Empire, qu'entendra la dernière postérité? enjamber d'un pas les Espagnes, réussir sur le même sol où naguère les armées de l'homme fastique avaient eu des revers, faire en 6 mois ce qu'il n'avait pu faire en 7 ans, qui aurait pu prétendre à ce prodige? C'est pourtant ce que j'ai fait. Mais par combien de malédictions ma tête a été frappée à la table de jeu où la Restauration m'avait assis? J'avais devant moi une France ennemie des Bourbons et 2 grands ministres étrangers, le prince de Metternich et M. Canning. Il ne se passait pas de jour que je ne reçusse des lettres qui m'annonçaient une catastrophe, car la guerre avec l'Espagne n'était pas du tout populaire, ni en France, ni en Europe. En effet, quelque temps après mes succès dans la péninsule, ma chute ne tarda pas à arriver. Dans notre ardeur après la dépêche télégraphique qui annonçait la délivrance du roi d'Espagne, nous autres ministres nous courûmes au château. Là, j'eus un pressentiment de ma chute. Je reçus sur la tête un seau d'eau froide qui me fit rentrer dans l'humilité de mes habitudes. Le roi et monsieur ne nous aperçurent point. Madame la duchesse d'Angoulême, éperdue du triomphe de son mari, ne distinguait personne. Cette victime immortelle écrivit sur la délivrance de Ferdinand une lettre terminée par cette exclamation sublime dans la bouche de la fille de Louis XVI. Il est donc prouvé qu'on peut sauver un roi malheureux. Le dimanche, je retournai avant le conseil faire ma cour à la famille royale. L'auguste princesse dit à chacun de mes collègues un mot obligeant. Elle ne m'adressa pas une parole. Je ne méritais pas sans doute un tel honneur. Le silence de l'orpheline du temple ne peut jamais être ingrat. Le ciel a droit aux adorations de la terre et ne doit rien à personne. Je traînai ensuite jusqu'à la Pentecôte. Pourtant, mes amis n'étaient pas sans inquiétude. Ils me disaient souvent « Vous serez renvoyés demain ».« Tout à l'heure, si l'on veut », répondais-je. Le jour de la Pentecôte, 6 juin 1824, j'étais arrivé dans les premiers salons de monsieur. Un huissier vint me dire qu'on me demandait. C'était Hyacinthe, mon secrétaire. Il m'annonça en me voyant que je n'étais plus ministre. J'ouvris le paquet qu'il me présentait, j'y trouvai ce billet de monsieur de Villèle. Monsieur le vicomte, j'obéis aux ordres du roi en transmettant de suite à votre excellence une ordonnance que sa majesté vient de rendre. Le sieur comte de Villèle, président de notre conseil des ministres, est chargé par intérim du portefeuille des affaires étrangères en remplacement du sieur vicomte de Châteaubriant. Cette ordonnance était écrite de la main de monsieur de Renneville, assez bon pour en être encore embarrassé devant moi. Eh mon Dieu! Est-ce que je connais monsieur de Renneville? Est-ce que j'ai jamais songé à lui? Je le rencontre assez souvent. S'est-il jamais aperçu que je savais que l'ordonnance qui m'avait rayé de la liste des ministres était écrite de sa main? Et pourtant, qu'avais-je fait? Où étaient mes intrigues et mon ambition? Avais-je désiré la place de monsieur de Villèle en allant seul et caché me promener au fond du bois de Boulogne? Ce fut cette vie étrange qui me perdit. J'avais la simplicité de rester tel que le ciel m'avait fait, et parce que je n'avais envie de rien, on crut que je voulais tout. Aujourd'hui, je conçois très bien que ma vie à part était une grande faute. Comment? Vous ne voulez rien être? Allez-vous-en! Nous ne voulons pas qu'un homme méprise ce que nous adorons et qu'il se croit en droit d'insulter à la médiocrité de notre vie. Les embarras de la richesse et les inconvénients de la misère me suivirent dans mon logement de la rue de l'Université. Le jour de mon congé, j'avais au ministère un immense dîner privé. Il me fallut envoyer des excuses aux convives et faire replier dans ma petite cuisine à 2 mètres 3 grands services préparés pour 40 personnes. Montmirel et ses aides se mirent à l'ouvrage, et nichant casseroles, lèche-frites et bassines dans tous les coins, il mit son chef-d'œuvre réchauffé à l'abri. Un vieil ami vint partager mon premier repas de matelot mis à terre. La ville et la cour accoururent, car il n'y eut qu'un cri sur l'outrecuidance de mon renvoi après le service que je venais de rendre. On était persuadé que ma disgrâce serait de courte durée. On se donnait l'air de l'indépendance en consolant un malheur de quelques jours. On se donnait l'air de l'indépendance en consolant un malheur de quelques jours, au bout desquels on rappellerait fructueusement à l'infortuné revenu en puissance qu'on ne l'avait point abandonné. On se trompait, on en fut pour les frais de courage. On avait compté sur ma platitude, sur mes pleurnicheries, sur mon ambition de chien couchant, sur mon empressement à me déclarer moi-même coupable, à faire le pied de grue auprès de ceux qui m'avaient chassé. C'était mal me connaître. Je me retirais, sans réclamer même le traitement qui m'était dû, sans recevoir ni une faveur ni une obole de la cour. Je fermais ma porte à quiconque m'avait trahi. Je refusais la foule condoléante et je pris les armes. Alors tout se dispersa. Le blâme universel éclata et ma partie, qui d'abord avait semblé belle au salon et aux antichambres, parut effroyable. Après mon renvoi, n'eussé-je pas mieux fait de me taire? La brutalité du procédé ne m'avait-elle pas fait revenir le public? M. de Villèle a répété que la lettre de destitution avait été retardée. Par ce hasard, elle avait eu le malheur de ne m'être rendue qu'au château. Peut-être en fut-il ainsi, mais quand on joue, on doit calculer les chances de la partie. On doit surtout ne pas écrire à un ami de quelque valeur une lettre telle qu'on rougirait d'en adresser une semblable au valet coupable qu'on jetterait sur le pavé, sans convenance et sans remords. L'irritation du parti Villèle était d'autant plus grande contre moi qu'il voulait s'approprier mon ouvrage et que j'avais montré de l'entente dans des matières qu'on m'avait supposées ignorées. Sans doute, avec du silence et de la modération, comme on disait, j'aurais été loué de la race en adoration perpétuelle du portefeuille. En faisant pénitence de mon innocence, j'aurais préparé ma rentrée au conseil. C'eût été mieux dans l'ordre commun, mais c'était me prendre pour l'homme que point ne suit. C'était me supposer le désir de ressaisir le timon de l'État, l'envie de faire mon chemin, désir et envie qui dans 100 000 ans ne m'arriveraient pas. L'idée que j'avais du gouvernement représentatif me conduisit à entrer dans l'opposition. L'opposition systématique me semble la seule propre à ce gouvernement. L'opposition surnommée de conscience est impuissante. La conscience peut arbitrer un fait moral. Elle ne juge point d'un fait intellectuel. Force est de se ranger sous un chef, appréciateur des bonnes et mauvaises lois. N'en est-il ainsi, alors tel député prend sa bêtise pour sa conscience et la met dans l'urne. L'opposition dite de conscience consiste à flotter entre les partis, à ronger son frein, à voter même, selon l'occurrence, pour le ministère, à se faire magnanime en enrageant. Opposition d'imbécillité mutine chez les soldats, de capitulations ambitieuses parmi les chefs. Tant que l'Angleterre a été saine, elle n'a jamais eu qu'une opposition systématique. On entrait et l'on sortait avec ses amis. En quittant le portefeuille, on se plaçait sur le banc des attaquants. Comme on était censé s'être retiré, pour n'avoir pas voulu accepter un système, ce système étant resté près de la couronne, devait être nécessairement combattu. Or, les hommes ne représentant que des principes, l'opposition systématique ne voulait emporter que les principes lorsqu'elle livrait l'assaut aux hommes. Chapitre 2. L'opposition me suit. ma chute fit grand bruit. Ceux qui se montraient les plus satisfaits en blâmaient la forme. J'ai appris depuis que M. de Villèle hésita. M. de Corbière décida la question. « S'il rentre par une porte au conseil, dut-il dire, je sors par l'autre. » On me laissa sortir. Il était tout simple qu'on me préférât M. de Corbière. Je ne lui en veux pas. Je l'importunais. Il m'a fait chasser. Il a bien fait. Le lendemain de mon renvoi et les jours suivants, on lut dans le journal des débats ces paroles si honorables pour M. Bertin. C'est pour la seconde fois que M. de Chateaubriand subit l'épreuve d'une destitution solennelle. Il fut destitué en 1816 comme ministre d'État pour avoir attaqué dans son immortel ouvrage « De la monarchie selon la charte » la fameuse ordonnance du 5 septembre qui prononçait la dissolution de la Chambre introuvable de 1815. Messieurs de Villèle et Corbière étaient alors de simples députés, chefs de l'opposition royaliste, et c'est pour avoir embrassé leur défense que M. de Chateaubriand devint la victime de la colère ministérielle. En 1824, M. de Chateaubriand est encore destitué, et c'est par messieurs de Villèle et Corbière, devenus ministres, qu'il est sacrifié. Chose singulière. En 1816, il fut puni d'avoir parlé. En 1824, on le punit de s'être tu. Son crime est d'avoir gardé le silence dans la discussion sur la loi des rentes. Toutes les disgrâces ne sont pas des malheurs. L'opinion publique, juge suprême, nous apprendra dans quelle classe il faut placer celle de M. de Chateaubriand. Elle nous apprendra aussi à qui l'ordonnance de ce jour aura été le plus fatale, ou du vainqueur ou du vaincu. Qui nous eût dit, à l'ouverture de la session, que nous gâterions ainsi tous les résultats de l'entreprise d'Espagne? Que nous fallait-il cette année? Rien que la loi sur la septennalité, mais la loi complète, et le budget. Les affaires de l'Espagne, de l'Orient et des Amériques, conduites comme elles l'étaient, prudemment et en silence, seraient éclaircies. Le plus bel avenir était devant nous. On a voulu cueillir un fruit vert, il n'est pas tombé, et on a cru remédier à la précipitation par de la violence. La colère et l'envie sont de mauvais conseillers. Ce n'est pas avec les passions et en marchant par saccades que l'on conduit les États. Post-scriptum. La loi sur la septennalité a passé ce soir à la Chambre des députés. On peut dire que les doctrines de M. de Chateaubriand triomphent après sa sortie du ministère. Cette loi qu'il avait conçue depuis longtemps comme complément de nos institutions marquera à jamais, avec la guerre d'Espagne, son passage dans les affaires. On regrette bien vivement que M. de Corbière ait enlevé la parole samedi à celui qui était alors son illustre collègue. La Chambre des pairs aurait au moins entendu le chant du cygne. Quant à nous, c'est avec le plus vif regret que nous rentrons dans une carrière de combat, dont nous espérions être à jamais sortis par l'union des royalistes. Mais l'honneur, la fidélité politique, le bien de la France ne nous ont pas permis d'hésiter sur le parti que nous devions prendre. Le signal de la réaction fut ainsi donné. M. de Villèle n'en fut pas d'abord trop alarmé. Il ignorait la force des opinions. Plusieurs années furent nécessaires pour l'abattre, mais enfin, il tomba. Chapitre 3. Dernier billet diplomatique. Je reçus du président du conseil une lettre qui réglait tout et qui prouvait, à ma grande simplicité, que je n'avais rien pris de ce qui rend un homme respecté et respectable. M. de Villèle à M. de Chateaubriand. Paris, 16 juin 1824. Monsieur le Vicomte, je me suis empressé de soumettre à Sa Majesté l'ordonnance par laquelle il vous est accordé des charges pleines et entières des sommes que vous avez reçues du Trésor royal pour dépenses secrètes pendant tout le temps de votre ministère. Le roi a approuvé toutes les dispositions de cette ordonnance que j'ai l'honneur de vous transmettre, ci-jointe, en original. Agréé, monsieur le vicomte, etc. Mes amis et moi, nous expédiâmes une prompte correspondance. Monsieur de Chateaubriand à monsieur de Talaru. Paris, 9 juin 1824. Je ne suis plus ministre, mon cher ami. On prétend que vous l'êtes. Quand je vous obtins l'ambassade de Madrid, je dis à plusieurs personnes, qui s'en souviennent encore, « Je viens de nommer mon successeur. Je désire avoir été prophète. C'est M. de Villèle qui a le portefeuille par intérim. » Chateaubriand. M. de Chateaubriand à M. de Renneval. Paris, le 16 juin 1824. J'ai fini, monsieur. J'espère que vous en avez encore pour longtemps. J'ai tâché que vous n'eussiez pas à vous plaindre de moi. Il est possible que je me retire à Neuchâtel, en Suisse. Si cela arrive, demandez pour moi d'avance à Sa Majesté prussienne sa protection et ses bontés. Offrez mon hommage au comte de Bernstorff, mes amitiés à M. Ancillon et mes compliments à tous vos secrétaires. Vous, monsieur, je vous prie de croire à mon dévouement et à mon attachement très sincère. Chateaubriand. Monsieur de Chateaubriand à Monsieur de Caraman. Paris, 22 juin 1824. J'ai reçu, monsieur le marquis, vos lettres du 11 de ce mois. D'autres que moi vous apprendront la route que vous aurez à suivre désormais. Si elle est conforme à ce que vous avez entendu, elle vous mènera loin. Il est probable que ma destitution fera grand plaisir à monsieur de Metternich pendant une quinzaine de jours. Recevez, monsieur le marquis, mes adieux, et la nouvelle assurance de mon dévouement et de ma haute considération. Chateaubriand. Monsieur de Chateaubriand à monsieur Hyde de Neuville. Paris, le 22 juin 1824. Vous aurez sans doute appris ma destitution. Il ne me reste qu'à vous dire combien j'étais heureux d'avoir avec vous des relations que l'on vient de briser. Continuez, monsieur et ancien ami, à rendre des services à votre pays, mais ne comptez pas trop sur la reconnaissance, et ne croyez pas que vos succès soient une raison pour vous maintenir au poste où vous faites tant d'honneur. Je vous souhaite, monsieur, tout le bonheur que vous méritez, et je vous embrasse. Post-scriptum. Je reçois à l'instant votre lettre du 5 de ce mois, où vous m'appreniez l'arrivée de M. de Merona. Je vous remercie de votre bonne amitié. Soyez sûr que je n'ai cherché que cela dans vos lettres. Chateaubriand. M. de Chateaubriand à M. le comte de Serres. Paris, le 23 juin 1824. Ma destitution vous aura prouvé, monsieur le comte, mon impuissance à vous servir. Il ne me reste qu'à faire des souhaits pour voir où vos talents vous appellent. Je me retire heureux d'avoir contribué à rendre à la France son indépendance militaire et politique, et d'avoir introduit la septennalité dans son système électoral. Elle n'est pas telle que je l'aurais voulu. Le changement d'âge en était une conséquence nécessaire. Mais enfin, le principe est posé. Le temps fera le reste. Si toutefois, il ne défait pas. J'ose me flatter, monsieur le comte, que vous n'avez pas eu à vous plaindre de nos relations. Et moi, je me féliciterai toujours d'avoir rencontré dans les affaires un homme de votre mérite. Recevez avec mes adieux, etc. Chateaubriand. Monsieur de Chateaubriand à monsieur de La Ferronnay. Paris, le 16 juin 1824. Si par hasard vous étiez encore à Saint-Pétersbourg, monsieur le comte, je ne veux pas terminer notre correspondance sans vous dire toute l'estime et toute l'amitié que vous m'avez inspirée. Portez-vous bien. soyez plus heureux que moi et croyez que vous me retrouverez dans toutes les circonstances de la vie. J'écris un mot à l'empereur. Chateaubriand. La réponse à cet adieu m'arriva dans les premiers jours d'août. M. de La Ferronnays avait consenti aux fonctions d'ambassadeur sous mon ministère. Plus tard, je devins à mon tour ambassadeur sous le ministère de M. de La Ferronnays. Ni l'un ni l'autre n'avons cru monter ou descendre. Compatriotes et amis, nous nous sommes rendus mutuellement justice. M. de La Ferronnays a supporté les plus rudes épreuves sans se plaindre. Il est resté fidèle à ses souffrances et à sa noble pauvreté. Après ma chute, il a agi pour moi à Pétersbourg comme j'aurais agi pour lui. Un honnête homme est toujours sûr d'être compris d'un honnête homme. Je suis heureux de produire ce touchant témoignage du courage, de la loyauté et de l'élévation d'âme de M. de La Ferronnays. Au moment où je reçus ce billet, il me fut une compensation très supérieure aux faveurs capricieuses et banales de la fortune. Ici seulement, pour la première fois, je crois devoir violer le secret honorable que me recommandait l'amitié. M. de La Ferronnays à M. de Chateaubriand, Saint-Pétersbourg, le 4 juillet 1824. Le courrier russe, arrivé avant-hier, m'a remis votre petite lettre du 16. Elle devient pour moi une des plus précieuses de toutes celles que j'ai eu le bonheur de recevoir de vous. Je la conserve comme un titre dont je m'honore, et j'ai la ferme espérance et l'intime conviction que bientôt je pourrai vous le présenter dans des circonstances moins tristes. J'imiterai, monsieur le vicomte, l'exemple que vous me donnez, et ne me permettrai aucune réflexion sur l'événement qui vient de rompre, d'une manière si brusque et si peu attendue, les rapports que le service établissait entre vous et moi. La nature même de ces rapports, la confiance dont vous m'honoriez, enfin des considérations bien plus graves, puisqu'elles ne sont pas exclusivement personnelles, vous expliqueront assez les motifs et toute l'étendue de mes regrets. Ce qui vient de se passer reste encore pour moi entièrement inexplicable. J'en ignore absolument les causes, mais j'en vois les effets. Ils étaient si faciles, si naturels à prévoir, que je suis étonné que l'on ait si peu craint de les braver. Je connais trop cependant la noblesse des sentiments qui vous animent et la pureté de votre patriotisme pour n'être pas bien sûr que vous approuverez la conduite que j'ai cru devoir suivre dans cette circonstance. Elle m'était commandée par mon devoir, par mon amour pour mon pays, et même par l'intérêt de votre gloire. Et vous êtes trop français pour accepter, dans la situation où vous vous trouvez, la protection et l'appui des étrangers. Vous avez pour jamais acquis la confiance et l'estime de l'Europe. Mais c'est la France que vous servez. C'est à elle seule que vous appartenez. Elle peut être injuste, mais ni vous, ni vos véritables amis ne souffriront jamais que l'on rende votre cause moins pure et moins belle, en confiant sa défense à des voix étrangères. J'ai donc fait taire toute espèce de sentiment et de considération particulière devant l'intérêt général. J'ai prévenu des démarches, dont le premier effet devait être de susciter parmi nous des divisions dangereuses et de porter atteinte à la dignité du trône. C'est le dernier service que j'ai rendu ici avant mon départ. Vous seul, monsieur le vicomte, en aurez la connaissance. La confidence vous en était due, et je connais trop la noblesse de votre caractère pour n'être pas bien sûr que vous me garderez le secret, et que vous trouverez ma conduite, dans cette circonstance, conforme aux sentiments que vous avez le droit d'exiger de ceux que vous honorez, de votre estime et de votre amitié. Adieu, monsieur le vicomte. Si les rapports que j'ai eu le bonheur d'avoir avec vous ont pu vous donner une idée juste de mon caractère, vous devez savoir que ce ne sont point les changements de situation qui peuvent influencer mes sentiments. et vous ne douterez jamais de l'attachement et du dévouement de celui qui, dans les circonstances actuelles, s'estime le plus heureux des hommes d'être placé par l'opinion au nombre de vos amis. La Ferronnays. Messieurs de Fontenay et de Pontcarré sentent vivement le prix du souvenir que vous voulez bien leur conserver. Témoins, ainsi que moi, de l'accroissement de considération que la France avait acquis depuis votre entrée au ministère, il est tout simple qu'ils partagent mes sentiments et mes regrets. Chapitre 4. Neuchâtel, en Suisse. Je commençais le combat de ma nouvelle opposition immédiatement après ma chute, mais il fut interrompu par la mort de Louis XVIII et il ne reprit vivement qu'après le sacre de Charles X. Au mois de juillet, je rejoignis à Neuchâtel Madame de Chateaubriand qui était allée m'y attendre. Elle avait loué une cabane au bord du lac. La chaîne des Alpes se déroulait, nord et sud, à une grande distance devant nous. Nous étions adossés contre le Jura, dont les flancs noircis de pins montaient à pic sur nos têtes. Le lac était désert. Une galerie de bois me servait de promenoir. Je me souvenais de Mylord Maréchal. Quand je montais au sommet du Jura, j'apercevais le lac de Bienne, aux brises et aux flots de qui Jean-Jacques Rousseau doit une de ses plus heureuses inspirations. Madame de Chateaubriand alla visiter Fribourg et une maison de campagne que l'on nous avait dit charmante et qu'elle trouva glacée, quoiqu'elle fût surnommée la Petite Provence. Un maigre chat noir, demi-sauvage, qui pêchait de petits poissons en plongeant sa patte dans un grand seau rempli de l'eau du lac, était toute ma distraction. Une vieille femme tranquille, qui tricotait toujours, faisait, sans bouger de sa chaise, notre festin dans une huguenote. Je n'avais pas perdu l'habitude du repas du rat des champs. Neuchâtel avait eu ses beaux jours. Il avait appartenu à la duchesse de Longueville. Jean-Jacques Rousseau s'était promené en habit d'Arménien sur ses monts, et Madame de Charrière, si délicatement observée par M. de Sainte-Beuve, en avait décrit la société dans les lettres neuchâteloises. Mais Juliane, Mademoiselle de la Prise, Henri Meyer, n'était plus là. Je n'y voyais que le pauvre Fauche-Borel de l'ancienne émigration. Il se jeta bientôt après par sa fenêtre. Les jardins peignés par M. Portalès ne me charmaient pas plus qu'un rocher anglais élevé de main d'homme dans une vigne voisine en regard du Jura. Berthier, dernier prince de Neuchâtel, de par Bonaparte, était oublié, malgré son petit simplon du Val de Travers, et quoiqu'il se fût brisé le crâne de la même façon que Fauche-Borel. Chapitre 5. Mort de Louis XVIII, sacre de Charles X. La maladie du roi me rappela à Paris. Le roi mourut le 16 septembre, 4 mois à peine après ma destitution. Ma brochure ayant pour titre « Le roi est mort, vive le roi », dans laquelle je saluais le nouveau souverain, opéra pour Charles X ce que ma brochure de Bonaparte et des Bourbons avait opéré pour Louis XVIII. J'allai chercher Madame de Chateaubriand à Neuchâtel, et nous vîmes à Paris loger rue du Regard. Charles X popularisa l'ouverture de son règne par l'abolition de la censure. Le sacre eut lieu au printemps de 1825. Là commençaient les abeilles à bourdonner, les oiseaux à rossignoler et les agneaux à sauteler. Je trouve parmi mes papiers les pages suivantes écrites à Reims. Reims, 26 mai 1825. Le roi arrive après-demain. Il sera sacré dimanche 29. Je lui verrai mettre sur la tête une couronne à laquelle personne ne pensait en 1814, quand j'élevais la voix. J'ai contribué à lui ouvrir les portes de la France. Je lui ai donné des défenseurs en conduisant à bien l'affaire d'Espagne. J'ai fait adopter la charte, et j'ai su retrouver une armée, les deux seules choses avec lesquelles le roi puisse régner au-dedans et au-dehors, quel rôle m'est réservé au sacre ? Celui d'un proscrit. Je viens recevoir dans la foule un cordon prodigué que je ne tiens pas même de Charles X. Les gens que j'ai servis et placés me tournent le dos. Le roi tiendra mes mains dans les siennes, il me verra à ses pieds sans être ému quand je prêterai mon serment, comme il me voit sans intérêt recommencer mes misères. Cela me fait-il quelque chose ? Non. Délivré de l'obligation d'aller aux Tuileries, l'indépendance compense tout pour moi. J'écris cette page de mes mémoires dans la chambre où je suis oubliée, au milieu du bruit. J'ai visité ce matin Saint-Rémy et la cathédrale décorée de papier peint. Je n'aurais eu une idée claire de ce dernier édifice que par les décorations de la Jeanne d'Arc de Schiller, jouée devant moi à Berlin. Des machines d'opéra m'ont fait voir au bord de la Spree ce que des machines d'opéra me cachent au bord de la Velle. Du reste, j'ai pris mon divertissement parmi les vieilles Horaces, depuis Clovis avec ses francs et son pigeon descendu du ciel, jusqu'à Charles VII avec Jeanne d'Arc. Je suis venu de mon pays, pas plus haut qu'une botte, avec que mi, avec ma marmotte. Un petit sou, monsieur, s'il vous plaît. Voilà ce que m'a chanté, au retour de ma course, un petit savoyard arrivé tout juste à Reims. « Et qu'es-tu venu faire ici ? » lui ai-je dit. « Je suis venu au sacre, monsieur. »« Avec ta marmotte ?»« Oui, monsieur, avec ma marmotte, » m'a-t-il répondu en dansant et en tournant. « Eh bien, c'est comme moi, mon garçon. » Cela n'était pas exact. J'étais venu au sacre sans marmotte, et une marmotte est une grande ressource. Je n'avais dans mon coffret que quelques vieilles songeries qui ne m'auraient pas fait donner un petit sou par le passant pour l'avoir grimpé autour d'un bâton. Louis XVII et Louis XVIII n'ont point été sacrés. Le sacre de Charles X vient immédiatement après celui de Louis XVI. Charles X assista au couronnement de son frère. Il représentait le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant. Sous quels heureux auspices Louis XVI ne montait-il pas au trône, comme il était populaire en succédant à Louis XV. Et pourtant, qu'est-il devenu ? Le sacre actuel sera la représentation d'un sacre, non un sacre. Nous verrons le maréchal Moncey, acteur au sacre de Napoléon, ce maréchal qui jadis célébra dans son armée la mort du tyran Louis XVI, nous le verrons brandir l'épée royale à Reims, en qualité de comte de Flandre ou de duc d'Aquitaine. À qui cette parade pourrait-elle faire illusion ? Je n'aurais voulu aujourd'hui aucune pompe. Le roi à cheval, l'église nue, ornée seulement de ses vieilles voûtes et de ses vieux tombeaux, les deux chambres présentes, le serment de fidélité à la charte prononcée à haute voix sur l'Évangile. C'était ici le renouvellement de la monarchie. On la pouvait recommencer avec la liberté et la religion. Malheureusement, on aimait peu la liberté, encore si l'on avait eu du moins le goût de la gloire. Ah ! Que diront là-bas, sous les tombes poudreuses, de tant de vaillants rois les ombres généreuses ? Que diront Pharamond, Clodion et Clovis, nos Pépins, nos Martel, nos Charles, nos Louis, qui, de leur propre sang, à tout péril de guerre, ont acquis à leur fils une si belle terre ? Enfin le sacre nouveau ? Où le pape est venu oindre un homme aussi grand que le chef de la seconde race, n'a-t-il pas, en changeant les têtes, détruit l'effet de l'antique cérémonie de notre histoire ? Le peuple a été amené à penser qu'un rite pieux ne dédiait personne au trône, ou rendait indifférent le choix du front auquel s'appliquait l'huile sainte. Les figurants à Notre-Dame de Paris, jouant pareillement dans la cathédrale de Reims, ne seront plus que les personnages obligés d'une scène devenue vulgaire. L'avantage demeurera à Napoléon, qui envoie ses comparses à Charles X. La figure de l'empereur domine tout désormais. Elle apparaît au fond des événements et des idées. Les feuillets des battants où nous sommes arrivés se recroquevillent au regard de ces aigles. Reims, samedi, veille du sacre. J'ai vu entrer le roi. J'ai vu passer les carrosses dorées du monarque qui naguère n'avait pas une monture. J'ai vu rouler ces voitures pleines de courtisans qui n'ont pas su défendre leur maître. Cette tourbe est allée à l'église chanter le Te Deum, et moi je suis allé voir une ruine romaine et me promener seul dans un bois d'ormeaux appelé le bois d'amour. J'entendais de loin la jubilation des cloches. Je regardais les tours de la cathédrale, témoin séculaire de cette cérémonie toujours la même et pourtant si diverse par l'histoire, les temps, les idées, les mœurs, les usages et les coutumes. La monarchie a péri, et la cathédrale a pendant quelques années été changée en écurie. Charles X, qui la revoit aujourd'hui, se souvient-il qu'il a vu Louis XVI recevoir l'onction au même lieu où il va la recevoir à son tour? Croira-t-il qu'un sacre mette à l'abri du malheur? Il n'y a plus de mains assez vertueuses pour guérir les écrouelles, plus de sainte ampoule assez salutaire pour rendre les rois inviolables. Chapitre 6. Réception des chevaliers des ordres. J'écrivis à la hâte ce qu'on vient de lire sur les pages demi-blanches d'une brochure ayant pour titre « Le Sacre » par Banage de Reims, avocat, et sur une lettre imprimée du grand référendaire, M. de Sémonville, disant « Le grand référendaire a l'honneur d'informer sa seigneurie, M. le vicomte de Chateaubriand, que des places dans le sanctuaire de la cathédrale de Reims sont destinées et réservées pour ceux de messieurs les pairs qui voudront assister, le lendemain du sacre et couronnement de Sa Majesté, à la cérémonie de la réception du chef et souverain grand maître des ordres du Saint-Esprit et de Saint-Michel et de la réception de messieurs les chevaliers et commandeurs. Charles X avait eu pourtant l'intention de me réconcilier. L'archevêque de Paris, lui parlant à Reims des hommes dans l'opposition, le roi avait dit « Ceux qui ne veulent pas de moi, je les laisse. » L'archevêque reprit « Messire, monsieur de Chateaubriand, oh, celui-là, je le regrette. » L'archevêque demanda au roi s'il me le pouvait dire. Le roi hésita, fit deux ou trois tours dans la chambre et répondit « Eh bien oui, dites-le lui. » Et l'archevêque oublia de m'en parler. À la cérémonie des chevaliers des ordres, je me trouvai à genoux au pied du roi, dans le moment que M. de Villèle prêtait son serment. J'échangeai deux ou trois mots de politesse avec mon compagnon de chevalerie, à propos de quelques plumes détachées de mon chapeau. Nous quittâmes les genoux du prince, et tout fut fini. Le roi, ayant eu de la peine à ôter ses gants pour prendre mes mains entre les siennes, m'avait dit en riant « Chat ganté ne prend point de souris ». On avait cru qu'il m'avait parlé longtemps, et le bruit de ma faveur renaissante s'était répandu. Il est probable que Charles X, s'imaginant que l'archevêque m'avait entretenu de sa bonne volonté, attendait de moi un mot de remerciement et qu'il fut choqué de mon silence. Ainsi j'ai assisté au dernier sacre des successeurs de Clovis. Je l'avais déterminé par les pages où j'avais sollicité ce sacre, et dépeint dans ma brochure « Le roi est mort, vive le roi ». Ce n'est pas que j'eusse la moindre foi à la cérémonie, mais comme tout manquait à la légitimité, il fallait, pour la soutenir, user de tout, vaille que vaille. je rappelai cette définition d'Adalbéron. Le couronnement d'un roi de France est un intérêt public, non une affaire particulière. Publica sunt haec negotia, non privata. Je citai l'admirable prière réservée pour le sacre. Dieu, qui par tes vertus conseille tes peuples, donne à celui-ci, ton serviteur, l'esprit de ta sapience. Qu'en ces jours naissent à tous équité et justice. Aux amis, secours, aux ennemis, obstacle, aux affligés, consolation, aux élevés, correction, aux riches, enseignement, aux indigents, pitié, aux pèlerins, hospitalité, aux pauvres sujets, paix et sûreté en la patrie. Qu'il apprenne, le roi, à se commander soi-même, à modérément gouverner un chacun selon son état, afin, ô Seigneur, qu'il puisse donner à tout le peuple exemple de vie à toi agréable. Avant d'avoir rapporté dans ma brochure « Le roi est mort, vive le roi », cette prière conservée par Du Tillet, je m'étais écrié « Supplions humblement Charles X d'imiter ses aïeux. 32 souverains de la troisième race ont reçu l'onction royale. Tous mes devoirs étant remplis, je quittai Reims, et je pus dire comme Jeanne d'Arc, ma mission est finie. »